soir dans nos studios Jean-José Boutaric, bonsoir.
Bonsoir.
On va vous présenter, vous qui êtes né à Tours en 1938, qui êtes passé par l'école pratique des hautes études de la Sorbonne. Vous êtes docteur, vous avez été chirurgien anesthésiste, vous êtes spécialisé dans les sciences historiques et philologiques, et vous êtes aussi auteur de deux ouvrages qu'on va présenter ce soir. Vous avez déjà un plutôt joli palmarès médical, scientifique.
Oui, alors sur le plan médical, je n'étais pas chirurgien, j'étais anesthésiste. Alors attention, vous savez que les deux, maintenant ça va beaucoup mieux, mais il fut une époque. Non, on veut toujours travailler en mode. Mais c'est une grosse plaisanterie entre chirurgien et anesthésiste. J'étais anesthésiste réanimateur et j'étais ensuite au SAMU de Créteil.
Et donc vous êtes mis à écrire, à vous intéresser à l'histoire, à partir de quel moment, dans quel moment, quelle période de votre vie?
Je dois dire que on s'intéresse toujours à l'histoire, mais enfin pendant ma période médicale, je n'avais pas trop le temps de m'y consacrer beaucoup. Et c'est vers la cinquantaine que je me suis consacré à l'histoire, surtout l'histoire de la médecine. Je suis donc allé régulièrement en Sorbonne pour suivre les cours de M. Grebec. Et puis, quand je me suis appuyé à la retraite, j'ai eu beaucoup plus de temps et je me suis beaucoup spécialisé. J'ai beaucoup travaillé à la Bibliothèque nationale, à la Bibliothèque Mazarine, à la Bibliothèque aussi d'histoire de la médecine.
Et donc, vous avez sorti en mars dernier Les Escartons du Briançonnais, un petit essai de 88 pages. Vous le présentez, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les habitants des Alpes, vous les avez décortiqués.
Non, c'est un essai. Je n'ai pas voulu rentrer dans tous les détails parce qu'il aurait fallu faire un ouvrage de plusieurs centaines de pages et reprendre ce que d'autres ont écrit et aussi bien que moi. Ce que j'ai voulu, c'est faire un petit résumé de l'histoire des Escartons. Parce que il s'avère que bien des gens
même des
Briançonnais ne savent pas très bien ce qu'étaient les Escartons. Et alors, quant au reste de la France, j'ai fait des conférences là-dessus dans le sud-ouest, en région parisienne aussi, et les gens écarquillent les yeux, mais c'est merveilleux, mais c'est un pays extraordinaire. Et c'est vrai, cette histoire vaut d'être connue et racontée.
Oui, comment on peut présenter justement ce peuple des Escartons?
Eh bien, c'est un peuple de gens d'abord extrêmement sympathiques. Je peux le dire parce que n'étant pas né natif, comme on dit, des Hautes-Alpes, c'est une grosse star, je le reconnais, j'en demande pardon aux gens des Hautes-Alpes, mais j'ai quand même d'autres pays aussi qui sont très intéressants. Et les Escartons ont le reflet un peu du tempérament des gens. Je les aime beaucoup. Ce sont des gens fiers, des gens indépendants. Et qui avait créé ce territoire, cette communauté, puisque c'est vraiment le terme qu'il faut employer, communauté des Escartons, de part et d'autre, de ce qui est devenu par la suite une frontière, hélas, qu'on peut dire coupée en deux.
Oui.
Alors ils vivaient, on dit la République, ce n'était pas vraiment une République, et d'autre part ils n'étaient pas les seuls. Il arrivait souvent que les seigneurs, les gens qui avaient les terres, revendent leurs droits pour se faire des sous. Et ça avait été le cas du dauphin Humbert II. D'ailleurs même avant le fameux dauphin Humbert II, XIVe siècle. Déjà, des droits avaient été acquis par les gens des Escartons. En tout cas, ils s'auto-géraient et ils vivaient dans une petite république. Mais ils devaient quand même toujours allégeance au dauphin. Et puis ensuite, quand les Escartons ont été cédés au roi de France, ce qui leur a d'ailleurs beaucoup déplu, parce que ça a été fait sans leur demander leur avis, eh bien, ils devaient allégeance au roi de France. Mais enfin, le roi de France, jusqu'au XVe siècle, il était vraiment très loin. Après, évidemment, ils étaient plus ennuyés par les passages des rois de France. Mais c'est
oui.
Une autre question.
Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu la naissance de la frontière franco-italienne, en tout cas piémontaise?
C'est le fameux traité d'Utrecht qui a été, comment dire, célébré, on ne peut pas dire fêté, puisque Louis XIV a pourri faire une rectification de frontières qui s'est justifiée politiquement et stratégiquement, c'est vrai. Mais lui, il n'a pas pris non plus la vie des gens de la région qu'il ne connaissait pas et où il n'a jamais mis les pieds, et il a créé cette frontière, et ça a été pas vraiment le début de la fin des Escartons, mais ça a créé quand même une barrière.
Oui, une barrière. Cet ouvrage, Le roi de France n'a pas pris la vie de la population. Est-ce que vous, vous l'avez pris, vous l'avez construit? Comment ce petit essai?
Ah ben cet essai, c'est très simple. J'ai lu, comme on fait toujours en histoire, j'ai lu tout ce qui avait été écrit sur le sujet et j'en ai fait un condensé. Vous savez, c'est très simple d'être historien. Hein, la difficulté, c'est de retrouver des documents.
Oui.
Mais il faut reconnaître qu'il y a la grande charte des escartons qui avait été accordée par le dauphin Humbert II. Et elle avait été recopiée en plusieurs exemplaires. Évidemment, il n'y avait pas encore d'imprimerie à cette époque, donc c'est des copistes en avaient fait plusieurs copies, et il y en a une qui est à la mairie de Briançon. Je oui. dois dire que c'est assez émouvant, parce que les documents authentiques du XIVe, il y en a, mais pas quand même énormément.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire, il n'y a pas énormément de documents sur cette période.
Si, il y en a pour la nation, enfin pour la France et pour les autres pays en général, en Europe, il y en a quand même, il y a beaucoup de chartes quand même qui sont conservées. Non, il y en a quand même. Mais celle-là est intéressante pour nous, habitants des Escartons.
Tout à fait. Vous avez dit vous n'êtes pas natif, en effet vous êtes natif de Tours, vous avez quand même été élu conseiller municipal de Saint-Chaffrey, c'était en 2008 si je ne me trompe pas.
Voilà.
Pourquoi ce petit parcours par la politique?
La politique, oui, là, au bon sens du terme.
Quel est le mauvais sens? C'est-à-dire
que le mauvais sens, oh, on va en entendre parler, mais ce n'est pas encore le moment.
Non, oui, vous étiez plus présent sur la culture, c'est ça, vous étiez élu à la culture.
Oui, non, c'est parce que je me suis beaucoup investi. D'abord, ça fait quand même plus d'un demi-siècle que je viens ici régulièrement dans le Briançonnais, que j'avais de grands amis à Chantemerle et dans la vallée. Et je me suis beaucoup investi dans les animations, puisqu'on a créé une association qui s'appelle Art et Montagne, Serge Vallée-Vallée, et organisé un festival de chant lyrique, du théâtre, on a un atelier culinaire. D'ailleurs, j'ai vu dans la revue Plus qu'il y a des allusions
de
culinaires.
News,
et c'est aussi. Et enfin, des conférences. Donc, on a fait. Je me suis beaucoup investi. Et je dois dire que nous sommes dans une commune où il y a un nombre de bénévoles considérable. Et quand je reviens en parler des fois en banlieue parisienne, on me dit mais comment vous avez autant de bénévoles, mais nous, on n'en a pas pratiquement pas. Eh ben oui, mais c'est ça.
Est-ce que c'est plus facile en zone rurale?
Oui,
ou alors c'est vraiment les gens de la vallée qu'on...
Oui, et puis dans les grandes villes, il y a beaucoup de mouvances, les gens viennent repartir.
Oui, moins de proximité, voilà.
Oui.
Alors, avec cette association Arrêt Montagne, vous permettez à la culture de s'ouvrir, justement. C'est un peu ce que vous faites aussi dans vos ouvrages, où vous rendez l'histoire finalement un peu plus accessible.
Voilà. Le deuxième ouvrage que...
L'histoire en s'amusant,
dont je vois que vous y venez avec habileté, je vous en remercie. L'histoire en s'amusant, là, j'ai en SAMU, en lettres majuscules, loin-en. C'est-à-dire que j'ai imaginé ce qu'aurait fait le SAMU pour sauver, alors j'ai pris 14 personnages célèbres, le critère d'inclusion, comme on dit en médecine, étant qu'ils soient décédés de mort brutale et dans l'heure qui a suivi leur agression, pour que le SAMU ait le temps d'arriver. Alors, j'ai retracé une petite équipe de SAMU, puisque j'ai quand même beaucoup travaillé au début du SAMU, et si cette petite équipe vient sur place, et alors elle sauve Henri II, Henri III, Henri IV, Lincoln, Socrate, etc., et puis alors après, il y a toujours un historien qui dit « Oui, c'est bien ce que vous avez fait, mais voilà comment ça s'est passé. »
Réellement. Oui, la question de ce livre, c'est si le SAMU avait existé à cette époque, pourquoi être parti sur... C'était pour lier vos deux passions, histoire et médecine?
Absolument. Vous ne pouvez pas mieux le résumer. Parce que je n'ai absolument pas voulu refaire l'histoire. Alors ça, surtout que les historiens, les vrais, les grands, ont horreur de ça. Quand vous discutez avec un historien, ne dites jamais « Ah, de nos jours, on aurait fait ci, et mon professeur Grémec, il fallait surtout pas dire « Ah, mais de nos jours, on aurait fait une piqûre d'antibiotiques. Ah, mais de nos jours... » Non, 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 ça n'a rien. Il faut se mettre dans le contexte de l'époque et voir les moyens qu'ils avaient. Alors ça, c'est une chose. C'est l'histoire pure et dure. Enfin, ce qu'on en sait par les documents qui nous sont restés. Mais par contre, la petite équipe du SAMU, alors bon, il y a l'infirmier, il y a une petite histoire d'amour, évidemment, bien sûr. On ne peut pas écrire romancé sans mettre un petit peu,
bien sûr,
d'amour.
Cette romance, vous avez fait un essai avec le dernier ouvrage, Les Escartons du Briançonnais. Là, on est vraiment sur un roman où il n'y a pas de chronologie, même s'il y a des aspects historiques. Ces deux façons d'écrire totalement différentes, ça a été simple de faire ces deux ouvrages différents?
Ah ben oui, c'est complètement différent. Les escarteaux du Bruyère Soleil, il n'y a pas de roman. C'est uniquement de l'histoire pure et dure.